Donc, on va revoir ce processus intégration et contrat et répondre à vos questions éventuelles sur ces processus. Donc, séance sur l'intégration et les contrats.
Hello. Okay, so
bonjour à tous. À l'ordre du jour, nous avons la partie contrat que je vais couvrir. On va voir des statistiques sur la sous-traitance, les critères d'éligibilité, le processus de contrat, ainsi qu'un certain nombre d'éléments spécifiques par rapport au code de conduite. Et Christa va vous parler de l'intégration du registre, le processus d'intégration, ainsi que les délais. Vous voyez la même diapo qu'on a montée lors de la séance de mise à jour du GTLD. Vendredi dernier, nous avons envoyé de nouveaux contrats, hier également. Donc, cette diapo ne reflète pas ce que nous avons envoyé hier, mais ce qui se passait vendredi dernier. Je vais vous répéter ce qui figure à l'écran. 960 candidatures éligibles qui ont été invitées à se joindre au processus de contrat par la priorité 1930. 275 réponses reçues, soit un taux de réponse de 28%. Sur ces 275 réponses, 178 contrats de registre ont été envoyés aux candidatures pour signature et il y a eu 144 contrats de registre signés et 806 demandes n'étaient pas encore éligibles pour les contrats. La raison pour laquelle ils n'étaient pas encore éligibles pour les contrats, ça peut être parce qu'il y a une demande de changement, parce qu'ils font l'objet d'un contentieux, d'un litige ou qu'il y a eu une objection. Je voulais rappeler une fois encore quels sont les critères d'éligibilité qu'on utilise pour l'invitation au contrat ainsi que pour la signature du contrat. Sur cette première diapo, vous voyez les critères d'éligibilité pour les invitations CIR, donc demande d'information sur le contrat. Pour recevoir ces informations, il faut une invitation, la demande de candidature doit être active, doit avoir passé avec succès l'évaluation, ne doit pas faire l'objet d'un litige, ne doit pas avoir d'objection en cours ou cette objection doit avoir été surmontée, ne doit pas avoir de demande de changement en cours, ne doit pas être dans la catégorie à haut risque du rapport de collision de nom de domaine, ne doit pas faire l'objet du conseil du GAC catégorie 1, catégorie 2. Ensuite, ne doit pas faire l'objet d'une objection de consensus. Également, aucune objection sur le non-consensus et non-consensus sur les sauvegardes. Voilà ce qui peut empêcher une demande de candidature d'être invitée. Concernant la signature des contrats, pour signer un contrat, la demande doit répondre à tous les critères d'éligibilité que je viens de mentionner et s'ajoute à cela les quatre suivants. Donc, ils ne doivent pas faire partie de la fenêtre de commentaires d'une durée de 30 jours. Ils ne doivent pas faire l'objet d'une plainte COI et ne doivent pas faire partie du mécanisme de responsabilité d'ICANN. Je vais passer en revue le processus de contrat. Vous voyez ici le processus de contrat haut niveau et on va passer en revue les détails sur la diapo suivante. Je l'ai montré auparavant d'une autre manière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les étapes du processus de contrat sont les suivantes. On reçoit les réponses, toute réponse reçue, ça a lieu tous les lundis de chaque semaine. Donc, lundi, on revoit les réponses du CIR. Mardi, jusqu'à mercredi, on voit quelles sont. Il y a une révision des réponses CIR une fois que cela est fait. Le RA, donc, contrat de registre est revu. Ensuite, on envoie le RA au candidat pour signature. On exécute le RA pour le poster sur le site web. Donc, vous voyez que... vous voyez ici à l'écran le jour où on exécute ces tâches et le nombre de jours que cela prend en tout 3 à 4 semaines pour tout ce processus. Vous voyez ici à l'écran chacune de ces étapes un peu plus en détail qui figurait sur la diapo précédente. Première étape du processus, revoir les réponses du CIR pour s'assurer que ces réponses sont complètes, donc lundi de chaque semaine. Cette révision se fonde sur les éléments suivants, voir par exemple si vous aimez demander une exemption au code de conduite. Nous nous assurons qu'il y a un formulaire de demande qui est joint et que le formulaire TLD est également joint. Donc, on examine en profondeur ces réponses. Si nous apercevons que vous vouliez demander une exemption au code de conduite, mais qu'il n'y a pas de pièce jointe, alors il y aura un suivi. S'il y a un suivi, alors le CIR va rester en suspens jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Je voulais également vous rappeler un certain nombre d'éléments parce que on s'est aperçu que c'était des pierres d'achoppement pour les candidats. Donc, souvenez-vous que nous ne considérons pas qu'un CIR est soumis et on ne commence pas ce processus de révision de CIR jusqu'à ce que ce CIR complet soit soumis. Donc, il faut que votre réponse soit complète. Donc, veuillez compléter parfaitement vos réponses de CIR. Également, les pièces jointes doivent correspondre à ce qui figure ici dans les stipulations du code de conduite. Si vous avez dit que vous vouliez une exemption de code de conduite, alors il faut fournir les pièces jointes correspondantes. Ensuite, prochaine étape, révision substantielle du processus. Il s'agit d'une révision plus complète et détaillée des informations que vous avez données dans la réponse CIR. Par exemple, tous les points de contact que vous fournissez, nous procédons à une révision de ces points de révision par rapport aux informations. Nous vérifions qu'elles sont cohérentes. Cette étape comprend également la spécification 12, si besoin est, et nous collectons également toutes les informations pertinentes pour la préparation de l'élaboration du contrat de registre, par exemple un PIC volontaire, s'il a été soumis, et un COI. Encore une fois, si un suivi est requis à cette étape, alors le CIR va rester à cette étape-là, c'est-à-dire en suspens. Et donc, nous allons appliquer un suivi et le CIR va rester donc en suspens jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Étape suivante. Veuillez vous assurer que si vous demandez une exemption du code de conduite, il faut que le formulaire de demande d'exemption soit complet. Si ce formulaire n'est pas complet, cela va retarder le traitement de votre demande. Également, inclure toutes les pièces jointes demandées. Si vous déclarez une propriété croisée, Veuillez également inclure toutes les pièces nécessaires pour accélérer un petit peu le traitement de votre CIR. Si vous ne fournissez pas ces informations pertinentes, nous allons vous contacter pour le faire. Donc, une fois que nous avons réuni toutes les informations nécessaires, il y a une création du contrat de registre, et ce contrat de registre est fondé sur les informations que vous nous avez données dans votre demande, ainsi que dans la réponse du CIR et votre PIC si vous en avez soumis un. Quelques rappels ici. Si vous demandez des changements par rapport aux termes et conditions du contrat de registre, votre demande de changement sera révisée à ce moment-là et il y aura donc un suivi à ce moment-là. Et si vous avez demandé une exemption du code de conduite, cette demande sera également examinée par le service juridique. Et un suivi sera également effectué à cette étape-là. Une fois que ce contrat de registre est élaboré, on l'envoie au candidat. Ça a lieu tous les mardis de chaque semaine. Si vous avez demandé une signature électronique, vous allez recevoir ce projet ou ce contrat de registre via DocuSign. Si une signature manuelle est demandée, on vous l'envoie par email. Vous pouvez l'imprimer et signer le nombre de copies désirées et une copie supplémentaire pour l'ICANN. Et envoyez-nous donc une copie à l'ICANN et toutes les copies que vous désirez pour vous. Et veuillez également nous indiquer une adresse pour lorsque vous nous envoyez votre copie du contrat signé. Une fois que nous recevons cela, l'étape suivante pour nous consiste à mettre en œuvre le contrat de registre. Si vous avez une signature électronique, l'ICANN va exécuter le contrat de registre. Si une signature manuelle est requise, l'ICANN va signer à son tour les pages correspondantes du contrat de registre ainsi que le supplément. Ainsi, et nous vous renverrons toutes les copies que vous souhaitez obtenir. Une fois que tout cela est fait, on essaie de poster ces contrats de registre sur le site web vendredi. S'il y a plus de 20 contrats de registre, alors on doit attendre le vendredi suivant pour poster tout cela sur le site web. S'il y en a moins que 20, on le fait ce vendredi même. Une fois que ces contrats de registre sont postés, il y a des informations sur le TLD et d'autres informations pertinentes qui figurent sur cette même page. Concernant l'annexe A, je sais qu'il y a eu un peu de confusion ici parce que on nous demandait si vous sollicitiez des services de registre ou si ce n'était pas le cas. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que l'annexe A a été élaborée en fonction des informations qui figurent dans votre demande et dans le PIC volontaire s'il a été soumis. Donc, tout service de registre non standard ou traditionnel que vous souhaiteriez proposer, s'ils sont spécifiés dans votre demande de candidature ou dans votre PIC, ils figureront en annexe du contrat. Mais si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas inclus dans l'annexe A et vous devrez donc demander à ce que cela soit inclus auprès des services du registre. Christa, je vais te passer la parole. Oui, il y avait une question. Pourriez-vous nous donner un exemple de ce qui serait considéré comme un service de registre non standard? C'est ce qui n'est pas stipulé dans un contrat de registre normal, c'est-à-dire excusez-moi, j'en trouve pas pour l'instant, mais je vais en trouver un. Attendez une petite seconde, ça va me revenir. Bien, Trang reprend la parole. Donc, si vous n'avez pas spécifié dans votre demande ou votre PIC que vous proposiez des services de registre non conventionnels, alors ils ne seront pas inclus. Alors, vous rappelez que l'exemption, le processus de demande d'exemption du compte de conduite sera révisé en même temps que la création du contrat de registre. Donc, il s'agit de deux processus parallèles. Cette demande peut être signée avant qu'une décision soit prise. Donc, vous pouvez signer ce contrat de registre et ensuite, nous allons réviser votre demande d'exemption au compte de conduite. Et si cela est approuvé, on vous le fera savoir de manière séparée. Et l'approbation finale sera diffusée et postée. Si nous approuvons l'exemption du compte de conduite, la demande d'exemption, aucun amendement ne sera fait directement à la spécification 9.
That is the end of my... Donc il s'agit là de la fin de la présentation. Nous allons passer la parole à Christa Papak, directrice des services, qui va nous parler donc de l'intégration au registre. Donc c'est le processus visant à avoir un rapport avec un opérateur de registre. À la base, c'est mettre en œuvre votre registre, l'installer, l'organiser. Donc, nous avons un dossier de demande. Il n'y a pas encore donc de contrat à ce niveau-là. Donc, c'est un point où nous collectons des informations, des coordonnées qui s'appliquent au registre en tant que tel. Et il y a également les aspects techniques pour les diverses interactions que vous aurez avec l'ICANN. Donc ça commence à l'exécution de votre contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement. Il y a une délégation, il y a la période préliminaire, la phase préliminaire, et le PDT également. Il y a trois étapes principales. Tout d'abord, collecte de données. Lorsque nous fournissons des informations, des coordonnées, première partie, nous vous demandons ces informations et nous vous demandons également de et nous facilitons également le TMDB, c'est-à-dire pour la base de données des marques commerciales. Nous fournissons également des informations pour l'homologation et faciliter les mécanismes de soutien opérationnel pour le registre. Deuxième étape, installation technique, ça c'est l'ICANN qui fait cela, pour établir les fonctionnalités de service et faire des tests. Nous établissons également la période préliminaire, les demandes et les inscriptions, les périodes d'inscription limitées, le cas échéant. Donc étape 1A, lorsque nous obtenons les coordonnées, vos coordonnées d'opérateur de registre, donc les points de contact, pour que vous êtes tous familiers des points de contact principal, primaire, ce n'est pas obligatoirement la même personne que pour le registre. Donc, nous avons déjà également une notification légale, juridique que vous nous avez fournie pendant la phase contractuelle. Donc, cela dépend de ce que nous avez donné dans votre réponse CIR, de demande d'information sur le contrat. Nous vous demandons quel est le fournisseur de services techniques au niveau back-end. Nous vous demandons un point de contact pour les données, pour les communications, les médias, pour l'aspect technique, pour l'aspect financier, comptabilité. 24 heures sur 24, nous avons besoin également d'un point de contact en cas d'urgence. Nous avons donc besoin en fait de deux points de contact en cas d'urgence. Pour le CZDS. Nous avons besoin d'un point de contact pour la base de données centralisée. Nous avons besoin d'un contact, en effet, en cas de litige, en cas d'abus. Nous avons besoin d'un point de contact pour la conformité, pour le système uniforme de suspension rapide URS. Et le point de contact pour la base de données des marques commerciales est extrêmement importante. Une fois qu'elle est reçue par la CAN, elle est fournie. Et ce point de contact, c'est la personne qui va faire l'interface avec l'IBM pour donc échanger ce que l'on appelle les tokens. Donc, nous avons le token TMBD qui vous est remis, travaille avec IBM dans ce cas, et cela permet l'homologation. Les informations, comme je l'ai dit, pour le TMDB, pour la base de données de marque commerciale, une fois que cela est fait, dans le cadre de notre processus, eh bien, vous allez recevoir un courriel de notre part avec un tableur Excel demandant tous ces détails. Nous développons un portail pour les clients à ce niveau et vous recevrez d'ici peu donc la possibilité de rentrer sur un portail et d'intégrer toutes vos données et vos points de contact de cette manière, en ayant un mot de passe. Je pense que ce sera plus facile, plus pratique. Il y a des questions posées dans la salle sans micro. Oui, la question au niveau juridique, est-ce que ça a trait aux juridictions ? Non, c'est simplement pour envoyer des notifications juridiques et légales et en besoin d'un point de contact d'une personne pour cela. Il ne s'agit pas là des juridictions. Vous avez une personne dans le contrat de registre qui est chargée de cela, des points juridiques. Eh bien, nous allons passer à 1B, puisque nous avons couvert un A, les demandes d'information pour l'intégration. Donc, encore plus d'acronymes, vous voyez. Nous avons un très bel acronyme que nous avons créé, le ONB-IR. C'est tout simplement un formulaire pour l'intégration. C'est là où on a toutes les informations d'homologation, des informations parfois techniques. Vous aurez cela sur le portail du client. C'est ce qu'on appelle un fichier plat, mais en fait, c'est un fichier texte, sous format texte, tout simplement. Et on peut l'intégrer facilement à notre système. C'est un fichier facile à gérer, beaucoup plus facile que Word, par exemple. Vous obtenez une notification du portail du client avec une pièce jointe, ce fichier plat en format texte. Vous le remplissez avec l'accès pour le fichier de zone, pour ses bases de données, pour Ebero et pour l'ICANN. Il y a plusieurs manières de faire, plusieurs méthodes. Mais on vous demande donc toutes ces informations sur le formulaire, c'est beaucoup plus clair. On demande, le cas échéant, la clé, l'URL pour l'accès également. On vous demande également l'adresse IP, protocole Internet. C'est là où vous donnez chaque mois des rapports à l'ICANN. Nous vous demandons également pour le système uniforme de suspension rapide, différentes clés PGB et des mots de passe. Si vous avez des extensions OPP, nous vous les demandons également. Il faut les documenter, il faut donner la réponse à l'ONBIR. Il y a des instructions spécifiques pour ces extensions EPP qui doivent être documentées et doivent être fournies dans un document séparé pour chaque extension EPP. Et nous avons également les noms des dossiers qui sont importants. Nous vous le demandons donc lorsque vous créez votre EPP, vos extensions EPP, eh bien, vous devez avoir des conventions, vous devez respecter des conventions qui vous sont données. Nous vous demandons également de fournir des tables IDN. nous vous demandons également pour le PPSLA, pour le contrôle du PPSLA, nous demandons les serveurs, les utilisateurs et les mots de passe pour tout cela. Donc, tout cela est requis, ce sont des critères obligatoires si vous voulez passer et faire la transition à l'IANA. Donc, vous avez du temps pour faire tout cela qui vous est donné. On va vous donner un calendrier d'ici peu. Mais c'est important de bien comprendre que s'il y a quelque chose qui manque, eh bien, vous n'allez pas pouvoir rentrer et obtenir votre token. On va pas vous donner la possibilité, cette clé, ce mécanisme qui va vous permettre de rentrer dans le registre. Il y a toujours parfois des difficultés à l'ICANN au niveau des tables IDN. On vous les demande une fois que la délégation est faite à l'IANA. Donc, tout ce que vous voyez sur ce transparent est obligatoire, doit être fourni. Et en plus, après délégation, vous aurez donc l'obligation de donner vos tables IDN. Donc, établir des capacités de service, des capacités de test. Je ne sais pas si vous êtes tous des personnes techniques, mais vous allez mieux comprendre si vous êtes des techniciens de l'informatique. Établir donc un accès pour différentes zones de fichiers pour le service des zones de données centralisées pour l'ICANN, pour Ebero. Et nous allons créer des alias, des noms CNAME pour les serveurs. Nous vous donnons donc accès à l'interface qui vous permet de rentrer sur le registre à ce niveau-là. Également, nous avons l'URS, le système uniforme de suspension rapide. Nous fournissons l'accès au registre pour télécharger les clés fournisseurs URS et collecter les clés PGP pour les registres. Nous collectons également les extensions EPP, nous l'avons déjà dit un petit peu plus tôt, mais c'est quelque chose que nous faisons, que nous analysons, que nous associons, le cas échéant, à l'installation de votre registre. Nous avons également le contrôle, la surveillance SLA de l'EPP. Il s'agit là d'une initialisation. Et à ce moment-là, vous allez donner vos tables IDN dont on parlait tout à l'heure. Troisième étape, vous établissez des périodes préliminaires, les périodes de requête et éventuellement, le cas échéant, les périodes d'enregistrement limitées. Donc c'est à vous de choisir cela, il n'y a pas un calendrier spécifié. Je sais qu'il y a eu plusieurs séances cette semaine, nous avons parlé en effet de l'installation de cette période de phase préliminaire. Nous voulions revoir cela un petit peu ce matin parce que c'est vraiment important pour l'intégration de votre registre et c'est un petit peu complexe. Donc ces informations pour démarrer ces noms de domaine passent par un portail public qui consolide toutes les informations de lancement des registres GTLD. Nous avons un portail qui est mis en œuvre pour le moment et au mois de décembre, 8 décembre, je pense que nous aurons un lancement. À la mi-décembre, on aura une première génération, ensuite une deuxième version que nous aurons à la mi-janvier. Donc actuellement, c'est un formulaire qui est posté sur le microsite que vous soumettez par l'intermédiaire du centre du service à la clientèle. Donc vous pouvez rentrer votre TLD, les informations de lancement de votre TLD par l'intermédiaire de ce portail. Donc, les informations qui sont requises, ces informations de lancement, qui sont également dans les critères RPM, eh bien, nous vous parlons du type de période préliminaire, de phase préliminaire, avec une date de début, une date de fin. Nous vous demandons également, je crois qu'il y en a deux ou trois dates préférées, durant laquelle vous voulez commencer votre phase préliminaire, où il y a la première qui est disponible, première date disponible. Donc, si pour certaines raisons, vous n'étiez pas en mesure d'obtenir la première ou la deuxième date que vous désiriez, eh bien, vous pouvez choisir comme troisième option la première date disponible. Vous devez également avoir la ligne de conduite pour la phase préliminaire qui soit annexé au dossier, un document. Ce n'est pas un lien qu'on vous demande, c'est un véritable document. Nous devons pouvoir le poster et l'associer avec votre registre. Nous avons également l'inclusion du SDRP pour la résolution des conflits et des litiges. On demande donc une certification et des tests pour l'intégration. Donc, toutes ces informations sont obligatoires. Si vous avez une période limitée d'inscription, eh bien, c'est optionnel, vous le savez. Si vous en avez une, vous devez fournir ces périodes, les dates exactes de cette période limitée d'inscription. Vous envoyez toutes ces notifications au centre service clientèle à l'adresse que vous avez ici. Vous pouvez l'envoyer à newgtld@icann.org. Donc, une fois que vous avez été donc délégué, une fois que vous avez toutes ces informations, vous ne pouvez pas soumettre avant délégation ces informations de lancement. Les informations sont soumises à l'ICANN avec les dates requises. Et ce que fait l'ICANN, c'est que nous faisons une analyse des documents que vous avez soumis, des informations que vous avez soumises, pour voir si vous êtes bien en conformité avec les critères du document RPM. Et une fois que vous avez fourni tous les documents requis et que tout cela puisse être soumis à IBM. Une fois que nous recevons les informations de lancement de TLD, et on travaille avec IBM pour fixer une date de lancement, et je crois que certains d'entre vous en ont fait l'expérience, on essaie de vous faciliter les choses, vous n'avez pas à contacter directement IBM, donnez-nous les dates et on vous confirmera les dates si elles sont disponibles. Donc, on peut vous demander de corriger ces dates ou vous demander de clarifier ces dates. Donc, maintenant, en ce qui concerne le calendrier pour cette intégration au registre, ce que nous essayons de vous montrer sur ce tableau au niveau des périodes de temps qui vont se dérouler, c'est de vous donner une idée du temps que vous avez pour justement préparer ces dossiers pour passer par les périodes de PDT et de délégation. Donc, vous avez en haut, en bleu, le contrat, 6 semaines, testing, pré-délégation et pré-signature du contrat de registre. En orange, là, on a l'intégration au registre. Voilà ce dont on vous parlait, après le PDT, et avant l'obtention du certificat, token, de ce mécanisme, eh bien, vous aurez le temps de passer par la première étape de l'intégration, mais vous devez terminer cela pour obtenir votre mécanisme technique, le token qui vous permet d'atteindre le registre. Et enfin, vous avez donc la troisième étape. Oui, je crois qu'il manque quelque chose sur notre transparent. Ça peut commencer dès la délégation et vous avez un processus qui est lancé à ce niveau-là et qui devrait s'aligner un petit peu mieux. Nous allons revoir notre transparent. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui. Ah oui, un autre point que j'ai oublié. Nous vous demandons, une fois que vous avez signé votre contrat de registre, on va vous demander toutes ces informations de contact et vous allez recevoir du portail des clients, une demande. Donc, inscrivez-vous sur ce portail pour passer par ce portail bientôt, une fois qu'il sera prêt, plutôt que d'envoyer des emails. Donc, nous avons plus de séances de formation et d'information cette semaine et aujourd'hui même, d'ailleurs, cet après-midi, dans cette même salle. Nous aurons IBM qui nous parlera de tout cela, ainsi que Deloitte. il y a le programme pour les variances de l'IDN, c'est cet après-midi aussi, et demain matin, nous avons une séance à 11h du matin sur le fonctionnement des nouveaux GTLD. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Oui, je m'appelle Rich Leedy et j'ai une question au sujet des IDN et de la liste IDN. Rich Leedy, c'est mon nom. Dans le domaine de la phase CIR, est-ce que la CAN les approuve ou bien est-ce qu'une fois qu'on a reçu le contrat, est-ce qu'on peut assumer que nos tables sont approuvées? Est-ce que vous les analysez, vous assurez qu'elles soient valides, que ces tables soient valides, ou bien est-ce que vous les recevez simplement? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus? Oui. Oui. Vous savez, le testing prédélégation. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. En ce qui concerne le contrat et les termes utilisés, c'est pris de votre dossier de demande et de candidature. Donc, il y a certains cas où ce que vous avez dans votre application, votre dossier de demande, pardon, il manque quelque chose ou il y a des erreurs typographiques. On prend ce qu'il y a dans le dossier de candidature et vous avez deux options. Vous pouvez demander un changement ou attendre une fois qu'on exécute le contrat. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un RCEP et donc demander une modification. D'accord, merci. Ça m'est utile de le savoir. Donc, mais c'est quand même un processus assez confus, me semble-t-il. Pourquoi est-ce que l'on vous donne des tables? Non, on ne vous demande pas des tables IDN dans le cadre du CIR. On ne sait pas si vous allez avoir des services non standards. C'est la question qui se pose. On vous demande... Oui, d'accord, je comprends. Est-ce que... Donc, on doit fournir des pièces jointes, oui. Et alors, les pièces jointes, c'est bien les tables IDN, non? Qu'est-ce que c'est? Non. Ça peut être des différences linguistiques et des différences de termes que vous voulez présenter. Et, donc, est-ce que vous allez fournir cela à l'IANA? Comment ça se passe, le rapport avec l'IANA? Donc... les tables IDN ne sont pas requises dans le CIR, elles ne sont donc pas fournies à l'IANA. Oui, les tables IDN sont requises lors de la délégation. Une fois qu'il y a délégation, il faut qu'elles soient fournies à l'IANA. Ça, c'est nécessaire.
Bonjour Andrew Byam, merci à vous deux. Pouvons-nous revenir à la diapo sur le calendrier, le déroulement dans le temps? Oui, celle-ci. En bas, il n'y a pas de date. Vous parliez de semaine, Krista, n'est-ce pas? Krista au micro, oui. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'il y avait un problème sur cette diapo. Normalement, ça devrait s'aligner sur celle d'au-dessus. Donc, on va corriger cette diapo avant de la poster. Donc, merci de soulever cette question. Très bonne question. Alors, vous pouvez soumettre cette information à tout moment, mais pour répondre à votre question, nous vous demandons une fenêtre, un espace de 7 jours pour faire cela. On ne prend pas autant de temps que cela, mais ce serait bon de recevoir ces informations à ce moment-là. Et vous pouvez choisir comme première option les dates qui vous conviennent et... Après 2-3 jours, vous avez la possibilité de commencer 2 ou 3 jours plus tôt. Donc, si vous le soumettez le 1er janvier, par exemple, nous vous demandons, et que vous demandez votre première date au 8 janvier, alors ensuite, on vous soumet les dates disponibles, vous choisissez les dates en fonction de celles qu'on vous donne. Et question, je crois qu'il y a un délai de 6 à 8 semaines, c'est cela? Est-ce que ces dates sont fermes? Oui, les délais à ICANN sont pas si, si fixes. Si vous répondez rapidement, ça dépend un petit peu. S'il n'y a rien de spécial dans les informations données, ça peut aller plus vite. Ça peut aussi prendre plus de temps. Ça dépend des informations qui sont données. Dernière question. Ces diapos sont déjà postés? Oui, nous allons actualiser cette présentation, comme je vous le disais, puisqu'il y a une erreur sur cette diapo. Une question de Core. Lorsque vous avez parlé des extensions IPP, est-ce qu'elles vont être publiées par l'ICANN pour information de la communauté? Non, nous ne les publions pas. Réponse de Christa. Question. Et s'il faut changer cela, ou une bonne raison de les changer, parce que dans le contexte de la période de lancement, dans l'effort de normalisation, on essaie de respecter cela, mais parfois il serait bon pour le registre d'utiliser ces normes plutôt que d'utiliser ce qui a été défini il y a 2 ans. Est-ce que on permet ce type de changement? Réponse de Christa. Oui, vous pouvez faire ce changement. Et merci de poser la question parce que c'est un point très important. Si vous actualisez ces tables, nous vous demandons de nous envoyer les tables actualisées, bien entendu. Question. Donc, il en va de même pour les tables IDN et les extensions. C'est ma question. Réponse de Christa. Oui. Question. Vous allez annoncer des dates pour la période initiale préalable au lancement. Et si vous modifiez ces dates, il faut informer 4 jours à l'avance l'ICANN, c'est ça? Mais il y a des cas où cela n'a pas de sens parce que si après et ça s'est produit par le passé, et il y a quelque chose d'inattendu qui se produit, alors on ne peut pas rentrer dans cette période préalable au lancement. Donc la meilleure chose, ça serait, dans ce type de cas, de prolonger la période préalable au lancement. Donc peut-être qu'on pourrait inclure cela dans les termes et conditions du contrat, que cela est permis. Réponse de Christa, je ne sais pas comment vous répondre. Je sais que dans les documents, nous avons envisagé cela. Moi, je n'ai pas participé au débat sur le document RPM, mais je vais me renseigner et je vous donnerai la réponse un peu plus tard. Merci. Question. Bonjour, Irina Dabala. J'ai quelques questions rapides concernant les points de contact. Y a-t-il des demandes spécifiques ou des limites spécifiques sur ces points de contact? S'agit-il d'adresses personnelles, de noms, de numéros de téléphone ou peut-on indiquer un groupe? Réponse de Christa, vous parlez des informations d'intégration. Oui, merci de cette question, Irina. Oui, il y a des demandes spécifiques. On vous demande un point de contact, à l'exception des médias et des communications. Donc, dans la demande qu'on vous envoie, on essaie de vous donner des exemples. Et lorsqu'on demande le nom d'une personne spécifique, par exemple, un contact d'urgence, en cas d'urgence, on vous demande de répondre de manière spécifique. Donc, vous allez connaître ces stipulations lorsque vous recevrez le formulaire. Merci. Deuxième question concernant les documents de phase préalable au lancement. Est-ce qu'on peut le faire dans la langue d'origine qui, dans le cas des IDN, n'est pas nécessairement l'anglais? Réponse de Christa. Excellente question. Là encore, il faut que je me renseigne et je vous donnerai une réponse un peu plus tard. Merci d'avoir posé la question. Troisième question d'Irina. Vous avez parlé des dates de période de requête ou réclamation et dans le cas des périodes limitées d'enregistrement. Peut-être que ça peut prendre quelques mois pour que cette période passe et on peut ne pas être sûr exactement et précisément des dates d'enregistrement. Donc, serait-il possible de se montrer souple par rapport à la définition et au fait de fixer ces dates et ces périodes ? Réponse de Christa. Vous soumettez les informations concernant la phase préalable au lancement avant la délégation, mais vous pouvez le faire également après, d'un côté. Deuxièmement, il faut que vous soumettiez vos politiques d'enregistrement et les périodes d'enregistrement limitées. Donc, si vous n'avez pas encore ces dates avant délégation et que après 20 ou 30 jours, vous pouvez le faire pour, vous pouvez soumettre ces informations et compléter les informations que vous avez soumises au préalable. Question d'Irina. Il faut une date claire pour l'enregistrement. Réponse de Christa. Il faut que vous nous donniez un ordre d'idée sur la durée pour qu'on voit la disponibilité. Non, je ne crois pas qu'il faut que vous soumettiez les dates de la disponibilité générale. Ce qu'on regarde, c'est la durée. Ce qu'il faut indiquer, c'est combien de temps va durer la phase préalable au lancement et les dates pendant lesquelles vous voulez qu'il y ait cette durée d'enregistrement, parce que dans les politiques d'enregistrement, vous allez donc définir cette durée. Et dans vos politiques d'enregistrement, vous allez parler de la durée de disponibilité. Donc, par exemple, vous pouvez dire qu'il y aura une période préalable au lancement de 90 jours, puis 90 jours d'enregistrement, et après 30 jours, la disponibilité commence. Question d'Irina. Oui, on ne peut pas être sûr du temps que ça va prendre, parce que c'est assez difficile de prévoir la durée. C'est pour ça que je posais la question, mais merci de votre réponse. Bonjour, Ray Fassin. Alors, le contrat de registre final arrive après l'arrivée des demandes de candidature. Donc, il y a tous les aspects d'évaluation financière. Donc, ce contrat final a des stipulations qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Donc, ma question est la suivante. Quel est le processus ou quelles ressources donne l'ICANN aux candidatures pour voir les interprétations de ce contrat de registre ? Sans avoir indiqué qu'on veut se lancer dans le processus de négociation. Parce qu'il faut comprendre leur interprétation des stipulations qui sont parfois liées à leur propre activité. Et étant donné que ce contrat de registre est finalisé, et qu'il y a des dispositions dans ce contrat de registre qui peuvent prêter à différentes interprétations. Alors, comment l'ICANN aide le candidat à débattre de ces interprétations pour s'assurer que les deux parties comprennent et interprètent la même chose? Merci de cette question. Réponse de Trang. D'une manière générale, il s'agit d'un document juridique et comme tout document juridique, c'est sujet à plusieurs interprétations, comme vous l'avez dit. L'ICANN peut donner des conseils juridiques aux candidats et on peut préciser certains points. Bien entendu, il existe ce type de questions. On essaie d'apporter des précisions dans la mesure où on peut, des conseils juridiques. et nous serons ravis de parler avec vous après cette réunion pour approfondir un petit peu le sujet. Merci. Oui, certaines questions des participants. Je ne sais pas si ça a été couvert par votre réponse à la question précédente. Je n'étais pas dans la salle. C'est une question de Christopher. Par rapport à la question 44 du formulaire, si vous donnez les 40, est-ce qu'il ne s'agit pas de refaire le même exercice? Non, si les tableaux IDN font partie de la demande, alors il n'y a pas de changement dans ces informations et ça n'est pas la peine de cocher cette case. Donc, si les informations ont changé, alors oui, il va falloir que vous soumettiez un nouveau tableau. Et on va vous demander d'ajouter ces informations. Alors, un point de précision, ajoute Christa. Pour ceux qui n'ont pas rempli de contrat, l'ICANN se fonde sur les informations que vous avez données dans ou envoyées dans votre demande. Donc, s'il y a d'autres services supplémentaires non standards, alors ces informations seront prises dans les informations envoyées dans la demande de candidature et figureront en annexe A. Si ces informations n'ont pas été envoyées et si les informations ne correspondent pas à ce que vous avez envoyé dans votre demande, alors nous allons vous contacter à ce propos. Question. Oui, je voulais ajouter que je sais qu'il y a parfois une certaine confusion. Donc moi, dit Trang, je travaille pour essayer d'être beaucoup plus clair et simple. Et j'espère que très vite, on va pouvoir clarifier et simplifier la rédaction de cela pour que les choses soient beaucoup plus claires. Donc soyez patients, ça va arriver. Oui, une question à distance. Si possible, pourriez-vous donner une révision des URL du système pour tous les PLC, pardon. Pouvez-vous répéter la question? Pourriez-vous nous donner une révision des URL au système pour tous les PLC? POC, pardon, point de contact. Réponse de Christa. Excusez-moi, je ne comprends pas la question. Pourriez-vous la reformuler, peut-être? Oui, on va demander une reformulation de cette question sur le chat, s'il vous plaît. Bonjour, Christa Rubinski. Je me demande ce qui est pensé pour la libération des codes qui ne sont pas des extensions géographiques, mais qui sont une lettre et un chiffre. Parce que le contrat de registre spécifie que tous les domaines à caractère sont bloqués. Donc, il y a beaucoup de domaines qui ne permettent pas ces codes. Donc, j'aimerais savoir si vous avez déjà pris en considération ce problème. Réponse de Christa. Concernant le RSF, on les évalue quand on les reçoit. Donc, encore une fois, comme la plupart des choses que fait l'ICANN, on demande à ce que cela soit soumis par écrit et on examine les informations spécifiques qui sont envoyées pour évaluation. Donc, c'est difficile de dire... on procédera de cette manière ou de cette autre manière. Ça dépend de la demande. Bonjour, Christa. Autre question? J'ai plusieurs questions. Alors, pour revenir à cette diapo à l'écran de la durée des étapes que vous avez décrites, étape 1, A et B. Puis-je comprendre que nous nous allons recevoir la délégation, mais une fois que ces informations seront reçues, c'est ça, oui. Ensuite, étape 2, puis-je comprendre qu'un opérateur de registre va recevoir ces informations une fois que ce processus sera finalisé? Non, là, il y a une erreur sur la diapo, on va la corriger. Les étapes 2 et 3 sont simultanées, sont parallèles. Et je répète, vous pouvez soumettre vos informations TLD lorsqu'il y a eu la délégation, mais vous pouvez le faire après aussi. C'est une première opportunité pour soumettre ces informations. Très bien. Mais donc, il ne faut. Quand faut-il faire envoyer ces informations d'intégration? Avant les informations TLD. Est-ce qu'il faut le faire avant la phase préalable de lancement? Non, l'étape 2 n'a pas besoin d'être faite avant l'étape 2. Non, elles peuvent être faites en parallèle. Après 30 jours, ça dépend de votre date de délégation, mais il faut fixer une date pour votre premier rapport de registre. Autre question concernant les tables IDN. Il faut les envoyer à l'IANA pour publication. Si ces tables changent, si on les actualise avec l'IANA, faut-il de toute façon les envoyer à l'ICANN? Oui, si ces tables IDN changent, il faut les envoyer à l'IANA. Et doit-on les envoyer à l'ICANN également, ces tables actualisées? Non, réponse de Christa, ça n'est pas la peine, vous les envoyez directement à l'IANA. Question sur les demandes d'exemption du code de conduite. Merci Christa, d'ailleurs, de votre réponse. Alors, si je suis un opérateur de registre qui veut une exemption et je n'ai pas encore mes politiques d'enregistrement, puis-je cocher la case du CIR, avant que la demande d'exemption de code de conduite ne touche à sa fin? Alors, Treng, pour être sûr d'avoir compris votre question, vous vous demandez si il y a une demande d'exemption. Est-ce que vous pouvez la faire même si votre période de TLD n'est pas encore finie? Oui. Est-ce que je peux cocher la case du CIR et suivre ce processus après? Réponse de Trang, oui, absolument. Vous pouvez demander une exemption du code de conduite au moment où vous envoyez votre formulaire CIR ou après avoir signé le contrat de registre. Dans les deux cas, c'est bon. Si vous demandez une exemption et vous donnez toutes les informations pertinentes, comme les informations TLD, le contrat de registre est élaboré simultanément. Donc, vous pouvez recevoir ce contrat et décider par la suite si vous le signez jusqu'à ce que l'ICANN analyse votre demande d'exemption. Ou vous pouvez décider d'attendre de voir la révision de la part de l'ICANN de votre demande d'exemption avant de signer le contrat de registre. Oui, parce que si je coche la case, il faut que j'indique un commentaire. Réponse de Trang, oui, vous pouvez soumettre cette réponse sans toutes les informations. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que si les informations ne sont pas complètes, le processus va s'arrêter là et on ne va pas ralentir le processus de demande d'exemption du code de conduite pour autant. On va continuer cet examen d'exemption. Mais ce processus risque d'être ralenti jusqu'à ce qu'on ait toutes les informations. Vous avez bien compris ma réponse? Oui, tout à fait. Dernière suggestion qui, je crois, a été soulevée par quelqu'un dans la salle. La question du CSR. Il serait bon que vous nous fassiez un rappel de toutes les questions et réponses qu'il y a eu dans la phase préalable au lancement, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs questions à cet égard. Réponse de Trang. Oui, je sais que on n'a pas eu le temps d'y travailler, mais le fait d'avoir instauré une fenêtre avec les questions, les réponses, et la possibilité de revenir vers vous, effectivement, c'est une très bonne chose. Christa, oui, un point de précision. Concernant le code de conduite, pour y revenir, si vous signez la demande et vous n'obtenez pas l'exemption au code de conduite et que vous allez recevoir une notification formelle de la part de l'ICANN disant qu'on a approuvé votre exemption de code de conduite. Donc, si vous signez ce contrat de registre sans avoir d'exemption, alors vous êtes tenu de respecter le code de conduite jusqu'à ce que vous receviez l'exemption. Donc, jusqu'à ce que vous receviez cette exemption, vous êtes tenu de respecter le code de conduite. Vous êtes tenu donc de respecter le contrat de registre, à savoir le code de conduite. Question ? Alors, est-ce que c'est difficile d'accorder une exemption au code de conduite ? Réponse de Christa, non, c'est quelque chose d'opérationnel. Pour nous, c'est la même chose. Vous pouvez soumettre cette demande à tout moment, soit lorsque vous envoyez vos informations CIR ou après. C'est pas important.
Rebonjour. C'est Rina Dalinea. Une nouvelle fois au micro. Une petite question. Dans ce processus d'intégration au registre, est-ce que à une certaine phase, est-ce qu'il y a un agrément et une approbation de l'ICANN pour le prestataire de service d'escrow? Donc, ça se fait dans la phase pré-délégation. C'est dans cette période de pré-délégation. Et on doit d'abord avoir l'approbation et ensuite avoir cet accord de signer. Donc ça doit se faire durant le PDT. Et si tout est réalisé, une fois cela, vous aurez le PDP, PDT. Donc tout cela, c'est sur le microsite. Il y a beaucoup d'informations qui sont sur le microsite. Oui, John McKay de Pursue, du registre Pursue. Est-ce qu'il y a un service non standard? Un domaine de troisième niveau. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler? Non, c'est une question technique. Et hélas, je ne suis pas une personne spécialisée de technique. Soumettez-la, s'il vous plaît, par l'intermédiaire du portail et on pourra vous répondre sur cette question qui est un petit peu trop technique pour nous. Oui, beaucoup de personnes ont du mal à me trouver une réponse. Comme je l'ai dit, pour les IDN, c'est non standard. Les IDN, nom de domaine internationalisé, ce n'est pas standard, ces IDN de deuxième niveau. Mais, donc, si vous allez fournir des IDN de second niveau, c'est un service non requis, mais vous allez le fournir dans ce cas. Donc, ça doit être inclus dans votre contrat de registre. Et, à ce moment-là, ça ne va pas être selon dans le cadre des termes de référence du contrat. Et si c'est déjà dans votre dossier de demande, vous n'avez pas besoin de détailler cela dans votre réponse CIR. Vous avez tout à fait raison, on va le trouver dans votre dossier de demande. Ce que je pourrais vous dire, pour aller un petit peu plus loin, c'est que nous ne sommes pas parfaits, nous avons oublié certains points. Lorsque l'on vous a envoyé votre contrat de registre, votre juriste va se pencher sur celui-ci et s'assurer que l'annexe A, qui est si importante et qui est différente pour chaque registre, il faut s'assurer que tout soit présent dans l'annexe A. Et n'hésitez pas à nous dire s'il vous semble manquer quelque chose dans cette annexe A au contrat de registre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'Internet des participants à distance? Oui, un dernier commentaire et quelques nouvelles à vous apporter. Nous voulons améliorer et faciliter donc la transition pour les opérateurs de registre. Vous avez eu accès au portail et nous voulons vous donner ce privilège. Nous essayons d'automatiser plus nos mécanismes pour que le processus soit plus rapide, soit plus facile d'emploi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans Adobe? Très bien, Wendy. Eh bien, je crois que nous allons vous remercier de votre attention. Ah, il y a une autre question. Oui. Une question en ligne. Vivian, est-ce que vous pourriez clarifier 17.5? C'est un accord entre les opérateurs de registre et les personnes qui les e-bureaux. Oui, répétez cela, s'il vous plaît, je n'ai pas compris la question. Donc, dans la section 17.5, est-ce que c'est un contrat entre l'opérateur de registre et e-bureau? E-B-E-R-O. C'est ce qui a marqué. La personne continue à taper sur l'Internet. Oui, en effet, ce dépôt fiduciaire et contrat de dépôt et d'entièrement est en rapport avec le fournisseur Ebero. Très bien. Eh bien, je crois que maintenant, nous avons terminé notre séance. Merci beaucoup.